Midi 49, Alexis Samson, bonjour.
Salut Michel.
Ce matin, tu étais au procès de Granby.
Oui, procès de la belle-mère de la fillette de Granby. Ça se déroule à Trois-Rivières, faut-il le rappeler. Et là, vous dire qu'on vient de franchir une étape assez importante du procès, c'est-à-dire que tous les témoins ont été entendus. Donc, il n'y a rien de nouveau, à moins là, de revirement quelconque, il n'y a rien de nouveau qu'on va apprendre au cours du procès. Parce que les éléments de preuve qui avaient à être présentés, les 23 témoins qui avaient à être entendus, l'ont été. Là, c'est la défense qui vient de mentionner, de déclarer sa preuve close. Donc là, les 23 témoins ont été entendus. La suite, c'est les plaidoiries. Ça va commencer lundi pour la défense, mardi pour la couronne. La défense commence puisqu'elle a décidé d'offrir une défense, justement. C'est pas elle qui va pouvoir terminer. Le jury, les jurés plutôt, ont déjà reçu la consigne du juge de prévoir leur petite valise.
Petite valise, ouais.
Oui. Le juge leur a dit « Mardi soir, amenez donc votre petite valise. » Par contre, il faut savoir qu'il y a deux jurés, et ça, il leur a rappelé également, il y a deux jurés qui vont avoir préparé leur petite valise pour rien.
Oui, les 14, oui.
C'est ça, parce qu'il y en a 14, on en garde 12. Quand c'est des procès plus longs, et là, en plus, la COVID étant dans les parages, on voulait être sûr d'avoir, j'appelle ça quorum, là, quorum de 12 jurés au moment où ce sera l'opportunité d'aller délibérer et les jurés vont en arriver avec un verdict éventuellement. Ça, il n'y a personne qui sait combien de temps ça va durer. Au cours des dernières heures, après la pause de presque deux semaines, ça faisait presque deux semaines qu'il n'y avait rien, qu'on n'avait pas de nouveau à vous mentionner. Donc, les jurés là, étaient de retour hier. Le juge a d'ailleurs tenu à leur mentionner qu'il ne devait pas, que c'était des délais qui étaient nécessaires et qu'il ne devait pas chercher à...
Qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est pas de vos affaires.
C'est ça. Cherchez pas de raison. Ouais. Et cherchez surtout pas à qui c'est la faute non plus.
Non, non.
C'est surtout pas la faute de l'accusé. On avait des choses à régler avec les avocats. Maintenant, c'est fait. Bon. La dernière témoin à être entendue, c'est Annie Sauvageau, consultante en pathologie judiciaire. Elle vient témoigner à la demande de la défense. Et elle, elle a eu un contre-interrogatoire serré, je vous dirais, là, ce matin, avec les avocats de la couronne. Mais elle n'en démarre pas, là. Dans les circonstances qui lui ont été présentées, c'est très peu probable que la fillette soit décédée de la présence du ruban adhésif sur la bouche et sur le nez. Et ça, malgré les questions qui lui ont été posées. Elle dit, un simple pli ou un trou, aussi petit soit-il, dans le ruban adhésif, ça lui aurait permis de respirer et il aurait fallu que le ruban adhésif là, soit apposé de manière suffisamment hermétique et tellement lisse pour ne pas laisser entrer là, la moindre portion d'air, selon sa version.
J'ai une question. Tu n'es pas obligé d'y répondre. Puis peut-être que tu ne peux même pas lui répondre à cette question-là à cause des directives du juge. Mais à partir du moment où elle dit ça, c'est parce qu'elle a fait des tests ou elle parle par expérience?
Ce qu'elle a expliqué, c'est qu'elle se spécialise justement dans les deuxième et troisième analyses. Donc, il y a une pathologiste qui va effectuer l'autopsie, va effectuer un rapport. Elle, elle est là pour deuxième, troisième opinion. C'est essentiellement ce qu'elle fait. Elle dit que son champ de prédilection, c'est tout ce qui touche à l'asphyxie en général. Et elle a mentionné qu'elle avait obtenu la documentation suite à l'autopsie qui avait été effectuée. Elle a lu tout ce qui lui avait été présenté. Elle a aussi écouté tous les témoignages depuis le jour 1 du procès. Et elle dit, c'est la conclusion, moi, à laquelle j'en arrive en regardant tout ça. C'est plutôt le ruban adhésif sur le reste du corps qui aurait causé le décès. Pour deux raisons. D'abord, le ruban adhésif sur le reste du corps aurait empêché sa cage thoracique de prendre assez d'expansion,
ouais.
Comme les bras auraient été positionnés en croix au niveau du thorax et n'auraient pas permis à la cage thoracique de se gonfler suffisamment. Et la deuxième raison, c'est qu'elle dit le ruban adhésif sur le reste du corps aurait fait augmenter drastiquement sa température corporelle, effectivement. Ajoutons à ça aussi, selon elle, des médicaments comme le citalopram, un antidépresseur qui a été retrouvé chez la fillette, qui aurait contribué à augmenter la température corporelle aussi.
On lui a fait absorber des antidépresseurs?
Il y avait prise de citalopram qui était pris par la fillette.
La fillette, oui. Peu importe, mais elle a son alcool.
Exact. Okay. Faut aussi mentionner qu'elle, elle est venue par la suite expliquer que, ça c'est sorti là, au cours surtout du contre-interrogatoire, pour elle, là, la fillette ne souffrait pas de malnutrition. Elle parle plutôt là, d'absence de tonus musculaire qui donne cette fausse impression-là. Elle dit scientifiquement, c'est pas le cas, contrairement à ce que les témoins avaient mentionné. Selon son opinion d'expert, la fillette n'était pas maigre ou rachitique. Les photos là, sont présentées, puis on voit la fillette là, qui est...
Toi, tu as vu les photos, là?
Oui, maigre. Et puis, c'est ce qu'elle dit, là. Elle dit à l'œil, effectivement, on voit qu'elle n'est pas grosse, là, pas du tout. Mais elle, ce qu'elle a fait, c'est de comparer le poids de la fillette par rapport à la taille. Et là, elle dit... L'indice de masse corporelle, l'IMC...
Le fameux percentile aussi. Là.
Oui, ouais, ben là, c'est qu'on pourrait là, tomber dans les détails, là, mais elle dit essentiellement que ça suit. Elle n'est pas grosse, mais par rapport à sa taille, ça suit. Bon, là, on pourrait rentrer dans toutes sortes de détails qui ont été présentés, mais pour elle, elle n'est pas rachitique et c'est pas dû à de la malnutrition aussi, a-t-elle soutenu.
On est dans quelque chose...
On est dans quelque chose. Là, comme je vous disais, c'est les derniers éléments nouveaux que je peux vous apprendre parce que depuis là, midi, on a déclaré la preuve close pour la défense. La couronne l'avait déjà fait. Pas de nouveaux éléments. Donc, la suite, ce sera lundi prochain, la défense qui va commencer à plaider, donc à présenter sa propre version de l'histoire.
OK. Alors, pour le bénéfice de nos auditeurs, vous comprendrez que quand la défense n'offre pas de défense, justement, elle est la dernière à plaider, donc de faire les plaidoiries.
Oui.
Et quand elle offre une défense, elle est la première et la couronne, le DPCP, par l'an dernier.
C'est ça. Ouais.
Alors, on fait ça la semaine prochaine.
Oui.
Là, est-ce que les avocats, défense et couronne, se sont fait demander par le juge combien de temps avez-vous besoin? Parce que là, tu me parles de lundi pour un, mardi pour l'autre.
Oui, les deux ont dit à peu près une journée chaque.
Ah, ben parfait. Alors, c'est pour ça qu'on comprend ça.
Voilà.
Le jury, les 12, ben les 14, vont emmener une petite valise.
Oui, mardi soir.
Ils vont en libérer deux.
Oui.
Après mardi soir, exactement. Mercredi matin, ça commence.
Oui, le juge le disait par la suite, là, probablement délibérer dans les heures là, qui vont suivre.
Excellent. Rien à ajouter?
Rien à ajouter, ça fait pas mal le tour. On s'en reparlera la semaine prochaine de toute façon.
Vous êtes comme deux jurés. Vous êtes libérés, M. Sanson.
Merci.
Alexis Sanson de Cogeco, Média Les Nouvelles. Il est midi 57. Au retour, quelqu'un d'autre de la salle Les Nouvelles, Rebecca Pépin, s'en vient faire son tour.